Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement ce lundi. Et merci si vous êtes là depuis le début de la matinée et le début de la saison. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité, le DJ Bob Sinclair pour son nouveau single. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. Et puis pour clore l'émission, Marc-Antoine Lebray évidemment. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours Bruno, vous parcourez ici la campagne médiatique et hier soir, on l'a dit avec Jean-Baptiste Boursier, en regardant les journaux de 20h, vous avez fait une découverte. TF1 a engagé Monsieur Plus.
Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, Philippe, de ce spot de pub pour des gâteaux à la noisette.
Si les biscuits pâtissiers Baleine sont si riches en noisettes, c'est que Baleine a un secret. Monsieur Plus.
On y voyait un type moustachu arpenter la chaîne de fabrication des biscuits et mettre des grands coups de coude dans les sacs de noisettes afin qu'il en tombe un peu plus dans la pâte. Eh bien, figurez-vous que ce généreux personnage tient désormais chronique tous les dimanches dans le 20h de TF1. Ça fait maintenant un mois que ça dure, sa rubrique est politique et elle porte un joli petit nom.
Voici Partie de campagne, épisode 4.
Partie de campagne, une séquence grâce à laquelle TF1 récapitule les temps forts de l'actualité politique de la semaine avec... une ambition.
Donner du sens à ces détails qui vous ont peut-être échappé.
Alors pour ce faire, son auteur récupère les images et les sons les plus intéressants de la semaine, il les monte, il les commente, mais comme il veut apporter un petit plus à sa rubrique, Monsieur Plus se déplace également sur le terrain. Très bonne idée. Cette semaine, par exemple, il est allé à Poissy assister au match de foot d'Emmanuel Macron et juste avant la rencontre, il a recueilli une amusante confidence d'un des joueurs de l'équipe adverse.
On vous a dit quoi exactement ? Pas de contact avec le président, c'est ça ?
Pas de très près.
Donc a priori, il va marquer un but alors ?
Normalement.
Bref, sa rubrique est au poil, enfin presque. Car le hic, Philippe, c'est que Monsieur Plus en veut... toujours plus, et qu'il a découvert Google Trends, un outil qui permet de savoir quels sont les sujets les plus recherchés sur Internet en France. Du coup, toutes les semaines, il termine son magnéto avec une trouvaille. Le problème, c'est qu'il fait dire absolument n'importe quoi aux statistiques de Google. Hier soir, par exemple, il était question du duel Éric Zemmour-Marine Le Pen et de leur éventuel rapprochement. Monsieur Plus a donc googlisé Zemmour et Le Pen sur son ordinateur et il a constaté ceci.
Ce week-end, les recherches associant Éric Zemmour et Marine Le Pen ont atteint un pic.
Il en a donc conclu ça.
En attendant, cette hypothétique alliance a suscité la curiosité sur Internet.
C'est leur hypothétique alliance qui a intéressé les internautes qui l'a dit. Or, ça n'est pas parce que vous tapez Zemmour et Le Pen que vous êtes forcément intéressé par leur alliance. Vous pouvez très bien rechercher leurs scores respectifs dans les sondages ou tout simplement vouloir connaître l'endroit où ils tenaient leur meeting puisque ce week-end, je rappelle qu'ils étaient l'un et l'autre en déplacement au même endroit dans le sud de la France. V'là pour hier. Mais il y a 15 jours, déjà, Monsieur Plus nous avait fait un coup sensiblement similaire. Il avait voulu conclure sur ce qui serait, pour sûr, les principaux thème de la campagne présidentielle et il en avait dégoté un parfait.
Sur Internet, les recherches sur l'immigration en bleu ont été dépassées par celles sur le prix du gaz.
Le prix du gaz serait un sujet majeur. Alors, en octobre, au moment où tout le monde rallume le chauffage, c'est pas banal, on se réjouit qu'il n'ait pas effectué sa recherche fin août ou à Noël. Sinon, c'est le prix du cartable ou celui de la douzaine d'huîtres qui serait devenu un enjeu de la présidentielle. Mais le pompon, Philippe, c'était la semaine dernière. Édouard Philippe venait tout juste de lancer dans un immense tintamarre médiatique son nouveau parti politique, Horizon, et Emmanuel Macron n'avait rien dit et il n'avait bougé ni pied ni patte pendant tout le week-end. Pas grave, Monsieur Plus a tout de même jugé bon de comparer leurs audiences respectives sur Google et deviner un peu ce qu'il a trouvé.
Victoire sur Internet cette semaine pour Édouard Philippe. Ce week-end, il y a eu plus de recherches sur l'ancien Premier ministre que sur le président.
Voilà, alors à toute fin utile, Philippe, je vous signale que dimanche dernier, Sylvie Vartan était davantage recherchée qu'Emmanuel Macron et qu'hier soir, Gilbert Montagné dépassait d'une courte tête Jean-Luc Mélenchon. Si j'en déduis la logique implacable de Monsieur Plus, le second tour de la présidentielle pourrait bien opposer Sylvie Vartan à Gilbert Montagné.
Merci Bruno Donnet, à demain. Laure d'Autriche, ça vous a fait sourire. Oui. Laure d'Autriche, votre indispensable ce matin.
Ah, la musique de Mozart permet-elle de soigner? Il y a une étude qui vient de paraître et qui dit qu'une œuvre très précise de Mozart permet de guérir les crises d'épilepsie. On va essayer de décortiquer l'effet Mozart.
On va surtout essayer de la diffuser cette œuvre, non?
Tout à fait, ça elle sera là.
Ça peut en calmer certains. Et Clément Le Saffre?
Ben, ça pourrait calmer justement le sujet de ma chronique. Venom qui revient au cinéma mercredi, un super méchant qu'on aimerait bien
qu'il écoute un peu de Mozart. Ça le calmerait, je pense, lui aussi, il en a bien besoin.
On va vous écouter dans un instant. Le DJ Bob Sinclair sera avec nous tout de suite. Son nouveau titre, c'est un duo avec une chanteuse qui s'appelle Ki. Vous allez me dire Ki. Elle s'appelle Ki. Elle s'appelle DNA. C'est sur Europe 1, Bob Sinclair.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
DNA, c'était Bob Sinclair sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Bob Sinclair.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en direct dans ce studio DJ connu du monde entier, un des gros noms de la French Touch avec David Guetta, Martin Solveig, Daft Punk, Justice, le pionnier Laurent Garnier, j'en oublie. 5 millions d'auditeurs par mois sur Spotify pour situer, 2,5 millions d'abonnés Facebook. Vous avez été également numéro 1 en Angleterre avec le titre Rock This Party. Votre titre Love Generation est devenu le générique de la Starac. Et récemment, vous avez fait un titre avec Robbie Williams. Et puis il y avait aussi des collabs avec Thomas Bangalter des Daft Punk. C'est donné à très peu. Nouveauté, on vient de l'entendre, c'est ce single DNA avec Ki. Alors, si j'ose dire, qui est qui ?
Qui est qui ?
Ça s'écrit K-E-E.
K-E-E, qui est une chanteuse suédoise, mais qui travaille dans l'ombre normalement, puisqu'elle fait des, ce qui s'appelle des top lines, c'est-à-dire des mélodies et des textes pour des chanteurs américains du top 40, et elle n'apparaît jamais. Et là, elle, quand j'ai sorti We Could
Be... Elle fait partie de ces hitmakers, des gens qui savent écrire des mélodies, quatre lignes, quatre notes qui sont extrêmement attachantes.
Exactement. Et elle m'a envoyé, alors la suite de We Could Be Dancing, le single que j'ai sorti cet été, elle m'a envoyé l'a cappella, cette a cappella, donc mélodie, texte fini, la production, il n'y avait rien, mais elle m'a dit, ah écoute, tu, si tu le produis un peu comme We Could Be Dancing, ça pourrait peut-être faire quelque chose pour cet hiver. J'ai dit ouais, j'aime bien, c'est sympathique, donc je l'ai fait un peu dans le même esprit, un peu italo-disco, comme ça, frais, comme tu disais, un petit peu plus doux pour l'automne. Voilà.
Voilà, il me disait, il y a un côté été indien. Elle était déjà sur le titre Rock the Boat ou je me trompe ?
Non, pas du tout. Elle n'était pas sur Rock the Boat. Mais c'est elle qui a écrit Hit on the Floor, par exemple, de Jennifer Lopez.
D'accord.
Donc elle a fait des gros hits déjà.
Alors on peut demander en régie, est-ce que je me suis trompé ? Je pensais qu'elle était sur Rock on the Boat, donc j'ai lu un papier avec une info qui était fausse. Mais si on trouve ce titre de Jennifer Lopez, on pourra l'entendre.
Exactement.
Elle est mariée à Sébastien Ingrosso de la Swedish House Mafia. C'est quoi cette mafia ?
C'est Swedish House Mafia, ne dis pas ça, mon Dieu, mais tu vas passer pour quelqu'un qui n'y connaît rien alors que tu es pointu en musique. La Swedish House Mafia, c'est trois trois artistes, Axwell, Steve Angelo et Sébastien Ingrosso, qui ont monté ce groupe. Trois DJ, trois producteurs qui ont fait des productions incroyables. C'est eux, en 2009, ils ont lancé un titre qui s'appelait One, et qui a lancé vraiment la mode de la, French Touch, ouais. Qui a lancé la mode EDM aux États-Unis. Ils ont cartonné, non, talentueux les mecs.
Comment on définirait l'EDM ?
Electronic Dance Music. C'est un style très électronique, très masculin, très viril de la dance music, très festival, voilà, qui me touche pas forcément, mais
Je reviens à ce titre DNA et Bob Sinclair. Il y a un clip absolument magnifique tourné dans un Paris désert avec une Rolls Royce. C'était pendant le confinement.
Rolls Royce vintage. Très important.
Je suis passé connaisseur. C'était pendant le confinement.
Oui, c'était pendant le troisième confinement et j'ai tourné des images avant même de faire la musique. Je me suis dit, c'est une opportunité fantastique. Alors j'ai demandé les autorisations, bien sûr, de pouvoir faire des images dans Paris complètement vide. C'était tellement surréaliste, mais tellement beau en même temps.
Ah bon, on peut voir ce clip très facilement. Le fait que ce soit mélodieux, c'était un choix. Vous vouliez ce genre ce genre d'ambiance.
Il y a un gros clivage entre ce qu'on joue en club et ce qui se joue en radio. Donc j'ai fait beaucoup de tubes de club qui sont devenus des hits de radio. Mais aujourd'hui, je pense que voilà, il y a deux facettes. Donc il faut deux styles. Donc il faut quand même faire quelques chansons pour la radio, pour exister en tant qu'artiste, faire vivre l'image.
Ça, c'est un titre pour la radio.
Voilà.
Mais et c'est puis... pas avec ça qu'on va transpirer jusqu'à 5h du mat.
Non, non. Mais on va faire des choses plus underground aussi, ouais. sur mon label, Yellow Productions, ou sur d'autres labels plus house. Voilà, on essaie de faire une image sur plusieurs styles différents.
Mais vous travaillez tout seul ou vous travaillez avec des collaborations?
Non, je travaille avec des qui fait la mélodie et le texte. Si j'ai des musiciens qui travaillent avec moi, et moi je fais toute la production derrière, tous les arrangements. Voilà, donc je suis pas musicien de formation puisque j'ai commencé par le recyclage comme avec le hip hop, donc tout ce qui est sampling des années 60, 70, 80, voilà, recycler des sons. Et je m'associe aux musiciens pour finir ma musique.
On vous a entendu tout cet été et dans les festivals, et puis ça va continuer. Vous restez avec nous, Bob Sinclair. Il y a Lisa Marie Marquez qui va arriver. Que s'est-il passé avant que Bob Sinclair arrive sur nos platines, dans nos oreilles? C'est le portrait pré-fame. Culture Média continue, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du DJ Bob Sinclair. On parle de son nouveau titre DNA, l'ADN. Et justement, on va mieux le connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Bob Sinclair. Vous êtes une célébrité de la musique électronique dans le monde entier. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Bob Sinclair, vous êtes né à Paris et vous avez grandi dans le quartier du Marais, un quartier qui à l'époque n'est pas le plus branché, mais un haut lieu de la vie et de la culture gay avec toute sa créativité, sa musique, sa mixité et sa tolérance. Durant votre enfance, l'été, dans la voiture de vos parents, vous prenez l'autoroute du soleil en écoutant cette chanson.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore.
Lisa Marie, elle danse encore plus que vous, Bob Sinclair. Elle est comme ça, elle est avec Joe Dassin dans l'été indien, elle y a fond. Vrai ou pas?
C'est vrai. Hein?
Mais c'est un titre de fille, ça. Ouais.
Vous passez vos vacances à Sifour-les-Plages, oui. À côté de Bandol, chez vos grands-parents. Des vacances studieuses où votre grand-père vous réveille à 9h pour 1 heure de maths.
7h.
7h même, 7h pour 1 heure de maths, non. Et 1 heure d'anglais. Et ça ne vous fait pas plaisir?
Non, mais quand j'arrive en 6e, parce que c'était quoi? Ça faisait CM1, CM2, ils nous apprenaient l'anglais et les mathématiques. On était, ouais, avec moi et ma sœur, on était déprimés. Mais en fait, quand on est arrivé en 6e, après, on était
premier de la classe. Bob Sinclair, à la maison, votre père vous fait tout le temps écouter de la musique, mais pas de la musique classique. Il ramène parfois des cassettes audio couleur or, des musiques passées par le DJ aux soirées où il va pour les réécouter, comme celle-ci par exemple.
Que c'est?
Oui, le Freak, c'est Chic, de Chic, du groupe Chic, Neil Rogers, Bernard Edwards, 79, sorti en mars 79.
Ah, j'avais l'année, j'avais pas le mois. Bernard Edwards à la basse, qui est mort malheureusement. Peut-être le plus grand bassiste de funk qu'il ait jamais eu. Mm.
Vous grandissez en regardant la télé avec votre sœur. Vous regardez tout, surtout les séries, comme L'Homme qui valait 3 milliards, Super Jamie, Magnum, Starsky & Hutch, Dallas, mais aussi Goldorak, Albator et Sans Koukaï.
la bataille.
Mais musicalement,
on est hyper pointu là.
Ouais. Parce que ça peut passer dans certains clubs.
Ouais, il faut
avec
voir
un bon kick de batterie.
Ouais, voilà, que ce soit remixé.
Ouais.
La vraie révolution pour l'enfant de la télé que vous êtes, c'est lorsque M6 commence à diffuser des clips, puis l'arrivée de MTV en France. Là, vous ne décrochez plus de l'écran, vous êtes collé devant les clips toute la journée. Bob Sinclair, vous êtes aussi un grand sportif. Vous commencez le tennis à l'âge de 7 ans, vous aimez aussi le ski. D'ailleurs, petit, vous dites que plus tard, vous voulez devenir prof de ski l'hiver et prof de tennis l'été.
Exact.
C'est un beau métier, ça.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
Ça existe, en plus, il y en a qui le font.
Ouais, ouais. Ouais.
Ils rêvent de devenir DJ.
Il y a aussi le football, le roller et le skateboard sur le parvis du Trocadéro. Vous êtes toujours téméraire et parfois, vous faites même peur aux petites mamies sur les trottoirs.
Ah bon, c'est vrai ?
Non, oh, je suis très sage comme garçon, moi.
Mais c'est non, vrai mais à l'époque... Oh,
si d'être rebelle, c'est faire du roller sur les trottoirs.
Non, mais faire peur aux mamies.
Non, pas du tout.
Bon.
Et puis à l'adolescence, votre sœur vous fait découvrir les boîtes de nuit. Au départ, ça ne vous intéresse pas trop. Vous qui traînez en jogging Sergio Tacchini, vous êtes à milieu des sorties en boîte. Vous êtes plutôt fan de rap et
c'est
de
vrai.
Culture hip-hop. Mais la première fois que vous rentrez dans un club, vous découvrez cette personne qui manipule les vinyles et qui fait surtout danser les gens. C'est une révélation.
Au Palace.
Au Palace, et vous passez alors toutes vos soirées à noter dans un petit carnet ce que joue le DJ, les maxi 45 tours en vinyle qu'il passe pour vous les procurer. Le premier 45 tours que vous achetez, c'est celui-là.
Rocket. Et oui, parce que c'est le premier disque qui sort avec ce qu'on appelle aujourd'hui le scratching, mais je crois que c'est un DJ de l'époque qui s'appelle Grandmaster DST qui donc pose cette façon de scratcher, de manipuler ce vinyle et faire du bruit avec. Alors à l'époque, les gens disent qu'est-ce que c'est que ce truc-là, mais bon, voilà, ils ont découvert ça et c'est les débuts des DJ, les débuts du rap.
Le fameux coucoucoucoucoucou. Ouais. Ça vous manque maintenant que les platines sont en laser? Ça vous manque le vinyle?
On peut scratcher, il y a un toucher vinyle et on peut avoir le même effet avec les platines CD ou en tout cas même avec les clés USB. Les tis sont gérées par des clés USB.
Bob Sinclair, vous passez beaucoup de temps dans les magasins de disques à écouter de la galette, comme on dit à l'époque, chez Chandisque, Crocodisque ou chez Clémentine. Et quand vous n'avez pas assez d'argent pour les acheter, vous empruntez des sous à vos petites copines.
Ah oui ? Vous avez rendu l'argent ou pas ?
Ah ouais. J'ai emprunté ça, des sous à mes petites copines.
Pour acheter des vinyles.
Oh, ma mère surtout, ma mère.
La collection de vinyles s'agrandit et vous mettez à bidouiller, à scratcher, vous le disiez, tout seul dans votre chambre sur des platines, quitte à rendre fou votre sœur qui est dans la chambre juste à côté. Bob Sinclair, vous passez votre bac en candidat libre, vous intégrez une école de commerce rue de Rennes pour faire plaisir à votre maman. Et après votre service militaire, vous partez à Saint-Barth dans l'hôtel de votre oncle et vous décrochez une place de DJ dans une petite boîte de nuit pendant quelques mois.
Et oui, je m'ennuyais un peu à l'hôtel. C'était après l'armée, j'étais un peu dépressif, hein, faut le comprendre. Et ensuite, voilà, il avait monté ce petit hôtel. Et donc, le matin, je me levais très tôt. Mais c'est pas grave, je m'ennuyais. Donc, je travaille la nuit, le jour, pour économiser un petit peu d'argent et puis revenir à Paris pour m'acheter un petit peu de matériel.
Et à votre retour à Paris, vous organisez vos premières soirées. Ça s'appelle Paradis pour Noctambule. Ça a lieu à la Maison de la Ville, la salle des fêtes à Margency, dans le 95.
Oh là, ça envoie
et
du
c'est
rêve, ça, hein.
70 francs, boisson gratuite.
Oui, oui. Dis donc, oh, le dos.
Il y avait du monde.
Ouais, c'était plein, mais moi je voulais jouer du hip-hop, de la funk, je voulais mélanger tout ça et ça n'existait pas.
Vous fondez alors un label, Yellow, avec Alain O, parce qu'au début personne ne veut de cette musique-là. Et pour faire des économies, vous allez presser vos disques en Belgique, parce que c'est moins cher, et vous les distribuez dans des magasins de disques. Le premier remix que vous sortez, c'est le remake d'un morceau de sitar rock, ça s'appelle Matar par Indian Vice.
Ça, c'est la version refaite de Paul Weller. Mais c'est vrai qu'on avait fait une version comme ça, un petit peu pirate, sur le premier disque. Et c'était dément.
Paul Weller des jams ?
Oui, oui.
Waouh.
L'aventure prend de plus en plus d'ampleur. Vous produisez des artistes aussi inclassables que cultes. Et pour votre nom d'artiste à vous, vous êtes créatif. D'abord, Chris the French Kiss. Il y aura aussi Ingrid Delambre, Mighty Bop et puis...
Réminiscence Quartet.
Il y en a plein.
Il y en a plein. Oui, parce que sur le label, je voulais que les gens s'imaginent que ce soit une grosse production.
Avec plein d'artistes.
Et en fait, je faisais tout. Et mon pote DJ Yellow, il m'amenait les disques. Enfin, c'était un peu... Voilà, c'était du bidouillage. Mais bon, on s'éclatait comme des fous, quoi.
Et puis, Bob Sinclair, en référence au personnage joué par Jean-Paul Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique. Vous américanisez le nom en l'écrivant en un seul mot. Et vous sortez votre tout premier album, Paradise, sous ce nom-là. Un album composé comme une bande originale de film, avec en couverture une femme nue dans une ambiance 70s, référence au disco vintage et à l'érotisme des années 70. Et là, vous payez un comédien avec une moustache, René, pour incarner Bob Sinclair.
C'est ça. Il était serveur dans un bar gay dans le Marais. Et je vois René, il était tout jeune. Il cultivait ce look d'être vieux, en fait, avec ses moustaches. Tout ça. Bon, il y avait sûrement un délire derrière ça. Mais j'imaginais un personnage à la Cérone pour faire ça. Parce qu'à l'époque, il faut remettre dans le contexte, c'est qu'en 1998, les DJ ne sont pas stars. Et on ne peut pas faire on peut pas vivre sa carrière sous un seul nom. Donc c'est pour ça que je faisais plusieurs projets. Mais quand j'ai vu le projet qui était Bob Sinclair à l'époque, a explosé ensuite.
Bob Sinclair, vous aviez été fasciné par ce mec qui manipulait les vinyles et faisait danser les gens dans les clubs jusqu'à devenir ce mec-là et bien plus encore. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup. Oh, c'est magnifique, j'ai appris plein de trucs. Je savais pas que vous avez fait le service militaire.
Ah si.
Ouais.
Si, fidèle au poste.
Vous le racontez jamais.
J'étais pas très heureux, mais...
Merci Lisa-Marie Marquez. On vous retrouve demain dans un instant, notre première indispensable. Vous écoutez de la musique classique ou jamais?
Oui, Amadeus, c'est mon film culte, absolu.
Ça pouvait pas mieux te branler, parler de Mozart avec Lord d'Autriche, mais pour un angle qu'on ne connaît pas, le pouvoir thérapeutique du compositeur. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du DJ Bob Sinclair, qui vient de sortir son nouveau single, il s'appelle DNA, c'est en collaboration avec une chanteuse suédoise, elle s'appelle Ki. Et ce qu'il nous a raconté, c'est que cet été, ou plutôt pendant l'année, elle avait entendu votre titre We Could Be Dancing avec une autre suédoise qui s'appelle Molly Hammar. Mmh. Quelques notes. Je souris parce qu'on entend le mot qui fait mouac, mouac, mouac. Comme ça, c'est ça, non?
Oui.
J'entends les choses, on a parlé avec Lord d'Autriche de Mozart tout à l'heure. Comment s'est passé votre été? Ça a rouvert les boîtes de nuit? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, on était très chanceux en France parce que nous étions le seul pays à être ouvert en Europe au niveau du clubbing et des festivals. Donc j'ai joué beaucoup en France.
Et il y a des projets?
Bien sûr.
Il va se passer quelque chose de dingue avec les Eurocaennes à Belfort qui annoncent une grande soirée en résidence secondaire. De quoi s'agit-il?
Ah, je ne sais pas.
Eh ben moi, je vais vous le dire, ce sera le 20 novembre. Il y aura une grande soirée électro de 22h à 4h du mat dans un bâtiment de 10 000 m² avec un dance floor de 2 000 m². Un truc de fou.
Je suis très excité.
Vous êtes dans le programme, je vous signale. Oui, je suis un peu au courant quand même.
Mais il y a plein de choses qui vont se passer d'ici là. Mais non, je suis très excité de faire ce festival.
Non, mais avec Lisa-Marie Marquez, on lui a raconté son passé. Maintenant, on lui raconte son futur.
J'essaye de vivre dans le temps présent aujourd'hui.
C'est ce que j'entends. Bonjour, Lord d'Autriche.
Bonjour.
Vous aimez la musique classique, Bob Sinclair?
Alors. Pas forcément, mais quand elle est réinterprétée par Serge Gainsbourg ou dans le film Amadeus, j'adore.
Pourquoi Amadeus?
La mise en scène de Milos Forman, je sais pas, tout le scénario, la façon dont la musique est utilisée avec les images, enfin tout.
On va dire, ça raconte la vie de Mozart.
Je ne sais pas justement si c'est une histoire vraie.
Alors, normalement, oui, il y a quelques erreurs historiques dans le film, mais D'accord. C'est un film fantastique. Vous avez une scène préférée d'ailleurs dans Amadeus?
Ma scène préférée, c'est quand Mozart... quand Salieri a composé une petite mélodie pour le roi d'Autriche, je crois.
C'est ça.
Et ils font patienter Mozart à la porte. Mozart l'écoute comme ça brièvement. Et le roi décide donc de est-ce que je peux interpréter devant Mozart cette petite mélodie, l'interprète. Et Mozart réinterprète la mélodie, qu'il a écouté que quelques secondes, et je trouve ça magnifique.
Et il l'ornemente d'une façon géniale. C'est vrai qu'elle est fantastique, cette scène. Oui.
Bon, il faut que je revoie le film, je m'en souviens pas. Lord d'Autriche, je voulais nous faire entendre du Mozart, mais avec un angle particulier, car on sait depuis longtemps que certaines musiques permettent de lutter contre les crises d'épilepsie. Il y a des chercheurs qui ont publié une étude dans laquelle ils montrent qu'ils ont compris l'effet neurologique d'une sonate de Mozart sur les malades, en l'occurrence sur les personnes épileptiques.
Exactement, et justement, c'est une œuvre de Mozart qui a été choisi, une œuvre que Mozart a composée à 25 ans, la sonate pour deux pianos, Köchel 448, qui aurait un pouvoir thérapeutique, la voici. « J'ai choisi ici l'interprétation de Daniel Barenboim et Martha Argerich. Alors, les chercheurs ont sélectionné une quinzaine de patients épileptiques sur qui les médicaments n'avaient aucun effet. Des sondes ont ensuite été reliées à leur cerveau pour déceler leurs réactions. Ils ont fait écouter cette musique de Mozart aux patients et là, après 30 secondes d'écoute seulement dans le cerveau, le phénomène électrique caractéristique de l'épilepsie chez les patients diminuait et il y avait donc cet effet neurologique. Ouais.
C'est ça. C'est complètement dingue.
C'est complètement dingue. Et sur 30 secondes, c'est-à-dire que les scientifiques ont remarqué qu'il y avait des passages plus apaisants que d'autres, les moments où la mélodie est jouée et les passages de transition entre les phrases musicales. Alors, si on essaie d'entrer dans le détail, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette œuvre ? Tonalité de ré majeur, tonalité souvent qualifiée de lumineuse, de joyeuse. On a des thèmes mélodiques qui contrastent entre eux. Des thèmes sublimes, dépouillés, presque nus, bouleversants aussi par leur simplicité, c'est ça qui est très typique chez Mozart. Et les transitions, écoutez ici le mouvement lent de cette même sonate.
Mes questions, ça marche pour celle-ci ? Est-ce que ça marche avec d'autres œuvres de Mozart, cet effet
alors,
sur les épileptiques ?
Oui, il y a une autre sonate qui a été testée, la 545, ça marchait bien, mais pas avec Wagner, par exemple, ni avec la lettre à Élise de Beethoven. Surprenant,
ah, pourtant,
hein,
ouais.
Ça pouvait
lettre
s'y prêter.
C'est étonnant.
Alors évidemment, vous le disiez, soigné par la musique n'est pas nouveau, c'est ce qu'on appelle l'effet Mozart. Hein, dans les années 90, il y a des scientifiques qui se sont penchés là-dessus, qui ont montré que écouter du Mozart pouvait temporairement augmenter le quotient intellectuel, les capacités de raisonnement.
C'est
que...
pas vrai.
C'est vrai.
On est trois ici, on est trois ici, de savoir ça. On a tous envie d'avoir le quotient intellectuel.
C'est vrai. Alors, et puis que aussi, certains qui avaient écouté du Mozart avaient ensuite de meilleurs résultats à des tests mentaux. Bon, l'étude n'a pas fait l'unanimité, mais c'est vrai que beaucoup de chercheurs sont d'accord pour dire que Mozart permet de réussir certains exercices, ouais, de ce point de vue. Alors, la musique de Mozart, elle est fascinante. Pourquoi ? Parce qu'elle a un effet puissant sur l'auditeur. En fait, Mozart fait des choses très simples et très expressives en même temps. Il y a des harmonies souvent inattendues. J'ai analysé et réécouté pour vous certaines pièces. Des harmonies qu'on ne trouve pas dans les règles de composition de l'époque. C'est-à-dire que Mozart fait des choses. Un étudiant, on lui dirait, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Mais Mozart le fait. Ça a un effet très puissant. Je vous ai juste choisi un petit exemple. Le fait de faire des grands écarts sur le clavier, une main dans le grave, une autre dans l'aigu. En général, on resserre, on écrit plutôt pour le milieu du clavier. Mozart ne fait pas ça, le grave et l'aigu, comme dans le 23e concerto pour piano. Voilà, pour cet extrait, il y a vraiment une magie propre à Mozart qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est certain.
Redites le numéro.
Le 23e concerto pour piano.
Non, mais vous avez donné un numéro au début.
Ah, la sonate, c'était la 448.
Voilà, la sonate 448.
Pour deux pianos.
Ah, je vais l'écouter tous les jours. Hein.
Moi aussi. Et pour le QI aussi. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Culture Média continue et on va parler avec Clément Le Saff de Venom. C'est tout à fait autre chose. Vous êtes fan de comics ?
Oui, bien sûr. Moi, j'étais sur les Strange, les Spidey, tout ce qui était Marvel à l'époque, bien sûr, mais en bande dessinée.
Voilà, on va rester sur du Marvel. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Bob Sinclair, son single c'est DNA. On va plonger dans l'ADN des comics. Vous êtes fan de comics à la base ?
Absolument. Moi, je suis un enfant des années 80, donc ouais. Tout a explosé dans les années 80, avec donc Marvel, avec Titan, Strange, Spécial Strange, Spidey. Voilà, je suis un fan de bande dessinée.
Vous allez trouver à qui parler, Clément Le Saff. Rebonjour.
Rebonjour.
Ce matin, Clément, vous nous proposez une petite séance de révision super-héroïque.
Oui, vous avez deux jours pour réviser votre Venom. Mercredi sort au cinéma Venom, Let There Be Carnage, le deuxième film consacré à Venom. C'est l'un des personnages les plus ambivalents de l'univers Marvel, né dans les années 80, justement, à la fois super-héros et surtout super-vilain.
Bonsoir, Eddie.
Bonsoir, Madame Chen.
Bonsoir, Venom.
Wang Shanghao, Madame Chen.
Il vous dit bonsoir.
C'est un plaisir de te revoir, Eddie Brock. Ça fait longtemps. Tu nous as beaucoup manqué. Proche est le chaos.
Alors, rien que les sons, normalement, vous donne une idée de l'ambiance du film. Là, on bascule. On est dans le monde de super-héros, toujours, mais on bascule vers le film de monstres. Cette fois, simplement, car Venom, c'en est un de monstres. Et rien que ça, ça change du super-héros en costume traditionnel.
Alors, allons-y pour les révisions. Et pour moi qui suis pas un connaisseur comme Bob Sinclair, qui est ce Venom?
C'est un organisme extraterrestre. Il est apparu chez Marvel en 1984. C'est un symbiote. C'est-à-dire qu'il peut changer de forme à volonté. Et surtout qu'il peut fusionner avec un autre être vivant et cohabiter avec lui. En temps normal, il se cache dans son corps. Mais parfois, Venom prend le dessus et devient alors un monstre noir incontrôlable, avide de sang et qui voir les gens avec ses dents acérées, tout un programme. Au début, c'est Spider-Man en personne qui est parasité par Venom, et il arrive à s'en débarrasser, évidemment, c'est un héros. Et Venom se trouve donc un autre hôte, en l'occurrence Eddie Brock, un journaliste déchu qui l'accueille lui avec plaisir, ça remet sa vie en question. Et cette fusion, bien confère à Eddie Brock tout un tas de pouvoirs, extension de son corps à volonté, force surpuissante, régénération, et surtout une propension à devenir complètement dingue.
Salut Eddie.
C'est qui ce gars-là ?
Je suis venu récupérer ce qui appartient à Monsieur Drake.
Wow. Qu'est-ce que tu fais ?
Je lève les mains.
Tu nous fais honte !
Je nous fais pas honte !
Oui.
Non, c'est pas vrai.
Oui, c'est vrai.
Non, c'est
pourquoi
pas vrai.
Tu fais une chose pareille ?
Parce que c'est la chose raisonnable à faire. Eddie ?
Je vais m'en occuper moi-même.
Eddie, où est la bestiole ? Occupez-vous de lui.
Extrait du premier film Venom qui était sorti en 2018 avec Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock. C'est aussi lui qui prête sa grosse voix à Venom, un peu modifiée quand même.
Il y a un effet quand même dessus.
Il y a quand même un effet. C'est donc un premier film qui était plutôt réussi, je trouve, notamment car il montrait bien toute la dualité du personnage. Venom, c'est l'histoire du monstre qui est en nous, du mal que l'on pourrait faire mais que l'on s'efforce chaque jour de refouler. C'est le miroir, si vous voulez, de la maxime de Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais en version là, maléfique et cruelle, que ferait-on avec un tel pouvoir entre nos mains ? Est-ce qu'on l'accepterait ? Est-ce qu'on le combattrait ou est-ce qu'on essaierait de le changer pour faire le bien ? C'est l'axe pris par les films d'ailleurs. Eddie Brock restreint Venom, il ne l'utilise que pour affronter des monstres encore pires que lui, en l'occurrence le sanguinaire Carnage dans le film qui sort mercredi.
Et avec vous Clément, qui dit révision, dit lecteur de comics, il y a un comics qui est sur la table devant Bob Sinclair.
Oui, il y a beaucoup de choses à lire sur Venom, Bob Sinclair vous pouvez le feuilleter. Pour ceux qui partent de zéro, je vous conseille l'anthologie Nous sommes Venom, c'est un regroupement d'histoires qui vous raconte toute la vie du personnage. Ouais. Pour creuser un peu plus justement sur ce parasite, il y a l'excellent Venom Rex que tient donc Bob Sinclair entre ses mains actuellement. Et puis pour accompagner la sortie du film, optez pour Absolute Carnage, tout ça c'est chez Panini Comics et donc le Carnage vous raconte le méchant du film qui sort. Bref, Venom ça se lit, ça se regarde et ça s'écoute aussi, c'est le héros, je voulais finir avec ça, qui a la meilleure chanson jamais écrite pour un héros grâce au rappeur Eminem. Il avait composé la musique du générique du premier film. Je m'arrête là pour qu'on puisse en profiter.
C'est Eminem ça, je connaissais pas du tout, vous connaissiez Bob Sinclair ?
Pas absolument pas.
C'était là, il l'avait composé pour le film, musique originale du film qui faisait le générique de fin. Il l'avait interprété dans un clip d'ailleurs en direct depuis l'Empire State Building.
Super, merci beaucoup. Merci Clément Le Saff, Culture Média continue, c'est la dernière ligne droite, on va entendre des voix et on va vous poser plein de questions, on va parler aussi de Jean-Paul Belmondo, à tout de suite.
Avec plaisir.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est DNA qu'on écoute,
oui.
C'est le duo qui vient de sortir, c'est votre nouveau single avec la chanteuse suédoise qui s'appelle K-E-E. Vous êtes vacciné ?
Tout à fait.
Vous avez vu ce qui s'est passé hier soir ? Soirée que Laurent Garnier organisait pour servir de test Covid à la Bellevilloise. Des volontaires vaccinés recrutés, l'entrée possible même en cas de test positif. Vous en pensez quoi ? Est-ce que ça peut faire changer les choses ?
Pourquoi les choses n'ont pas changé ?
Ils font des tests pour voir ce qui peut se passer dans les boîtes de nuit.
Mais on est déjà ouvert en boîte de nuit depuis le mois de juillet.
Alors à quoi sert ce test ?
Je n'en sais rien.
Voilà.
Ils avaient déjà fait un test à Bercy
ouais.
pour le pour le concert d'Indochine, je crois, où il n'y avait que 5000 personnes testées, etc. On n'a pas eu le résultat du test, mais en tout cas, je ne savais pas qu'ils refaisaient des tests.
Ils ont recruté 4400 personnes. La moitié assistait à la soirée, l'autre moitié non. Ils vont comparer ensuite le nombre d'infections dans les deux groupes. Résultat connu à la fin de l'année. Vous n'étiez pas tendre avec l'exécutif au moment du Covid et du confinement et de la fermeture des boîtes.
Et je le suis aujourd'hui, puisqu'ils ont ouvert... Non, je suis beaucoup plus tendre, puisqu'on a eu la chance d'être ouvert début juillet, festivals et clubs, alors que l'Europe était fermée. On a pris le risque. Il y avait quand même quelques clusters fin juillet. On a tous eu peur que ça referme début août, mais ils ont pris le risque de le faire et finalement, ça s'est bien passé.
Alors, on ne peut pas parler de vous, Bob Sinclair, sans parler de Jean-Paul Belmondo à cause de votre pseudonyme. Mm-hmm. C'est un pseudonyme de pseudonyme. Racontez d'où vient ce nom.
Le nom vient du film Le Magnifique, donc un film qui a été écrit par Philippe de Broca. 1973, et dedans il joue le personnage de Bob Sinclair.
Voilà. Alors, c'est pas tout à fait ça. Il joue un personnage qui s'appelle François Merlin.
François Merlin est l'écrivain. Et l'écrivain
a créé un personnage qui s'appelle Bob Sinclair.
Et il vit ses rêves à travers ce personnage.
On va entendre un extrait. C'est l'éditeur donc, qui demande des nouvelles à Merlin, alias Belmondo, de son personnage, Bob Sinclair.
Comment va Bob Sinclair ?
Il est à Acapulco.
Oh, j'aime bien Acapulco. Je vais probablement y passer cet hiver. Vous connaissez ?
Non. C'est, on travaille sur documents, alors un bon plan et quelques prospectus.
Bah oui.
Bah ouais, vous le connaissiez un peu, Jean-Paul Belmondo ?
Oui, j'ai eu les chances de le rencontrer. Ça s'est fait un peu bizarrement. C'est-à-dire que Jeff, un ami à moi, Domenech, qui s'occupait de lui après sa maladie, m'a appelé un jour. J'étais en Espagne, il m'a dit « Demain, Monsieur Belmondo veut déjeuner avec vous à Cannes, sur la plage. Donc, il faut être là à midi. » J'ai failli être désagréable. Ouais. Hein. Et je lui ai dit « Mani, non, c'est vrai. Il a vu un avion passer avec ton nom, Bob Sinclair, ce soir dans un club à Cannes. Donc il me dit, il aimerait bien déjeuner avec toi, etc. Le lendemain, donc j'étais comme un fou. J'ai pas dormi du tout. J'ai pris un avion, je suis arrivé à midi à Cannes et j'ai déjeuné avec lui. Il y avait Charles Gérard et c'était comme si on se connaissait depuis 30 ans.
Et vous avez continué à vous voir à Cannes
tout le temps. Il y avait des rendez-vous comme ça, les étés, puis l'hiver, on allait dîner ensemble, déjeuner. Et il y avait toujours beaucoup de jeunes avec lui, que ce soit Guillaume Canet, que ce soit Gilles Lelouch. Voilà, il aimait bien organiser des choses.
Et il a écouté votre musique ou pas du tout ?
Non, je crois pas. Mais c'est pas grave.
Vous avez dit, alors, il est mort à 88 ans. Mm-hmm. Vous avez déclaré récemment à une radio, à 80 ans, je serai encore en train de mixer.
C'est possible, si je suis physiquement encore alerte.
Non, mais vous n'allez pas en boîte de nuit à 79 ans.
Mais il y a bien Giorgio Moroder qui continue à faire des lives.
C'est vrai, vous avez raison.
Voilà.
Non, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'aimerais bien vous voir comme ça. Il est bientôt 54. C'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebret. Chaque jour, des stars viennent voir notre invité. Et ce matin, Bob Sinclair, c'est David Guetta, collègue DJ à vous, qui est là.
Ouais, salut Europa, tout le monde, les mains en l'air. Comme moi quand je compose mes morceaux. Ouais. Hey Bob, je voulais te dire que comme toi, je vais poser tout nu sous ma douche. La seule différence, c'est que moi, je mettrai pas mes mains pour cacher mon entrejambe. Ça serait quand même dommage pour un DJ de pas sortir son meilleur morceau. Ouais. Hey Bob, tu sais quoi? Je rêve que toi et moi, on fasse un son ensemble quand on aura 80 ans. Ouais, parce qu'on connaît les légumes mixés, mais pas les légumes qui mixent. Ouais!
Voyons, c'était pas prévu ça. Mac Lesguy, il faut dire, vous étiez tout nu, vous avez posé tout nu il y a un an.
Je pose pas tout nu, on essaie de faire un peu des petites choses drôles sur les réseaux sociaux.
Ouais, bien sûr. Mac Lesguy est aussi passé vous voir.
Bonjour et bienvenue dans E égale Europe 1. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au single de Bob Sinclair, DNA, qui est l'acronyme anglais pour dire ADN et qui signifie que Bob se la pète un peu à vouloir montrer qu'il parle anglais. À bientôt pour de nouveaux secrets scientifiques.
Je parle d'un secret. Bob Sinclair, vous êtes fan de tennis, ça devrait vous faire plaisir. Yannick Noah voulait passer vous voir.
Ouais, salut tout le monde. Salut tout le monde. Non, quand j'ai su qu'il était prof de tennis, j'ai pas résisté à l'envie de rencontrer Bob, quoi. En plus, je dois avouer que j'ai été hyper ému quand il a gagné un Energy Music Award parce que je me suis dit, enfin un tennisman français qui gagne un trophée. Non, en tout cas, quand on veut avoir du style, le Bob, il vaut mieux l'avoir sur les platines que sur la tête. Que sur la tête, quoi.
Oui, mon cher Yannick, ici Nelson Montfort, excusez-moi de vous couper, mais Bob Sinclair a déjà joué sur le central de Roland-Garros contre Novak Djokovic. Mais c'était de l'exhibition. Mais en même temps, à chaque fois qu'un tennisman français joue contre Djokovic, c'est toujours de l'exhibition, car ils finissent tous complètement à poil. Voilà. Bonne journée, mon cher.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebret. À demain. C'est quoi vos projets, Bob Sinclair, pour la suite ?
Ça va mixer, hein. Ça va mixer fort.
Mais il n'y a pas d'album qui va sortir.
Non,
c'est des singles qui sortent comme ça.
Aujourd'hui, les gens consomment la musique différemment. Ils font leur propre playlist sur les plateformes. Et sortir un album, il faut s'appeler Drake.
La presse aussi a changé. Je pensais à vous en écoutant ce que disait Belmondo. Quand il avait démarré, il était encensé par la critique branchouille à cause de Godard. Il était dans la nouvelle vague à bout de souffle. Et puis ensuite, il a fait des films plus populaires. Et la critique s'est un peu détournée. Il vous arrivait la même chose. Vous étiez avec la Yellow, dans votre petit coin, vous étiez...
On était le label Yellow Productions, voilà, les jeunes qui montent, que ce soit dans l'IB, Télérama, etc.
Et quand
j'ai fait Bob Sinclair et les Inrocks, bien sûr. Et quand j'ai fait Bob Sinclair, voilà, j'avais retourné ma veste. Mais comme disait Gainsbourg, j'ai vu qu'elle était en vison.
Ouais. Entre-temps, la presse a changé de sens aussi, avec ce qui s'est passé pendant le confinement.
Et oui, ça a été incroyable, parce que les sessions du confinement, finalement, les journalistes se sont aperçus que j'avais une énorme culture musicale. Et qu'il y avait une vérité dans ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai refait la quatrième de couve de Libé et puis tous les gens. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça a été un moment.
C'est cyclique.
Voilà. Ça a été un moment important.
Il faut dire
pour
ce
moi.
Qu'il a fait pendant le confinement. Il a rangé ses disques, il mixait. Ils sont aperçus que le type a chez lui 35 000 disques. C'est juste complètement incroyable. Merci d'avoir été avec nous en direct. Le
merci,
single
Philippe,
Dana.
Merci à
nous,
tous.
On se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec Thomas Reynaud, directeur général de Free.
On voit bien qu'il n'est pas chanteur.
Je ne suis pas chanteur du tout, je suis bassiste. Et puis la comédienne Cécile de France pour le film Illusion perdue d'après l'œuvre de Balzac. Ça nous intéresse beaucoup parce que ça raconte les rapports entre la presse et l'édition et le monde en général. Après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous, le programme du jour. Tiens Mélanie, je commence
par
vous.
Allez, on va commencer par moi, effectivement. On va parler d'abord de reconversion. Peut-on vraiment se reconvertir à n'importe quel âge, n'importe quand? On verra quelles sont les bonnes choses à faire et surtout les pièges à éviter. Ça vous plaît comme sujet?
Non, ce que j'aime, c'est l'enchaînement parce que je le
c'est
connais.
C'est Julia qui va faire l'enchaînement. Un très bel enchaînement, c'est la journée mondiale de la ménopause. Mais quelle bonne nouvelle, on va tout y passer.
Est-ce qu'on peut se reconvertir à la ménopause?
Voilà, entre les deux. Voilà. Vous voyez, tout est lié dans Bienfait pour vous, Philippe.
Voilà, c'est le Camoulox, c'est juste maintenant. Moi, je vous dis salut, merci de nous avoir écoutés. À demain, 9h. Bonne journée. Europe 1.